La Voix de la Plume, un contenu proposé par AYG Bleu, autrice et créatrice d'univers, en coopération avec Radiographite. L'écriture est une passion et une expérience formidable de patience, de persévérance et de créativité à laquelle je choisis de m'intéresser infiniment. Je partage avec vous des rencontres inspirantes d'auteurs et de créateurs qui ont croisé mon chemin, mes coups de cœur, ainsi que des conseils autour de l'écriture issus de ma vie d'autrice et de lectrice. Pour des conseils personnalisés ou des questions sur cette émission, n'hésitez pas à me contacter via Instagram @AYGBleu. Bonne écoute! Et bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon week-end. Nous allons commencer notre émission La Voix de la Plume dans le studio de Radiographite. Je suis Aurore et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Dans le studio avec moi, j'ai la chance d'avoir deux auteurs locaux, deux auteurs que vous pourrez d'ailleurs retrouver au Salon du Livre de Venette en octobre prochain. Il s'agit de Joël Carbonnier-Houdard.
Bonjour Aurore, bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Et il s'agit de Mickaël Moutonnet.
Bonjour à tous, merci Aurore de nous accueillir.
Avec plaisir. Eh bien, à notre habitude, j'ai envie de dire, on va commencer par la rubrique qui nous intéresse le plus, bien sûr celle de l'interview de nos auteurs. Rubrique interview. À la rencontre des auteurs et des créateurs. Eh bien, pour commencer, on va... Ladies first, hein, Mickaël.
Absolument, toujours.
On va commencer avec Joëlle qui est venue avec un livre qu'elle a envie de nous présenter, un livre qu'elle a écrit bien sûr, qui s'appelle « La lettre égarée ». Joëlle, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu de quoi parle ce roman ?
Alors, ce roman est parti bizarrement d'un concours de nouvelles qui était axé sur le timbre poste. Donc, le timbre, j'ai choisi un timbre poste qui datait de la Seconde Guerre mondiale, qui a été très peu édité pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était la Croix de Lorraine et la chaîne brisée. Et de là est parti ce roman qui démarre pendant le maquis, un jeune qui s'appelle Armand et qui souhaite rentrer dans le maquis pour pas... Il a ses 18 ans, il ne veut pas être enroulé dans les STO. Voilà. Et donc, il arrive dans le maquis, il est reçu dans une ferme avant de pouvoir accéder au maquis et donc là, il tombe sous le charme de la fille du fermier. Voilà. Ensuite, il fait son travail en tant que maquisard, etc. Mais le maquis est démantelé à plusieurs reprises. Ils doivent s'en aller. Et le premier maquis était dans l'Aube et se retrouve dans Lyon et après redescendre dans le sud de la France, etc. Et donc, la charmante jeune fille qu'il avait rencontrée, forcément,
Simone,
l'histoire était de courte durée, puisqu'ils se sont vus très très peu de temps. Mais Armand est vraiment sous charme, vraiment le coup de foudre, elle aussi. Et il commence de lui écrire. Elle lui écrit une seule lettre, mais cette lettre est égarée.
Voilà. Ah, et donc, d'où le titre.
D'où le titre. Voilà.
Très bien. Et du coup, juste pour être bien sûr, donc tu as commencé à. Enfin, tu as choisi cette histoire-là, qui se passe à cette période-là, par rapport à un concours de nouvelles qui se passait. Enfin, qui était basé.
Le concours de nouvelles était basé sur le timbre poste.
D'accord. Donc, voilà. J'avais le choix du timbre.
J'avais le choix du timbre. Et puis, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai demandé à monsieur, mon mari, qui s'appelle Joël également, et qui m'a dit, lui, il est féru d'histoire, moi, un petit peu moi. Et il m'a dit, pourquoi tu ferais pas sur la Seconde Guerre mondiale? Alors, et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et lorsque j'ai écrit ce concours de nouvelles, j'ai dit à la présidente de l'association, ah ben maintenant que j'ai écrit ce concours de nouvelles, moi j'ai plein de choses, je suis frustrée. Elle me dit, mais te gêne pas, si tu veux écrire un roman, ne te gêne pas, vas-y, fais-le. Et donc voilà. Donc
de base, ton roman c'était une nouvelle et du coup tu l'as agrandi.
Voilà, la nouvelle du coup termine le roman.
Ah !
Parce que le roman se termine de nos jours.
D'accord, très bien.
Voilà, avec un secret de famille.
Oh là là.
Dans le voilà.
Super. Donc oui, de la lettre égarée. Donc c'est la lettre qui a le timbre
que j'ai choisi.
Ouais, j'adore cette petite anecdote
voilà,
comme ça.
Je vous dirai pas si elle arrive à son destinataire.
on en reparlera.
Merci Joël, on va y revenir. Ce que je vais faire, c'est que Michael, toi aussi, tu es venu avec un livre qui s'appelle « Laissez le soleil s'éteindre ». C'est tristoun un petit peu comme titre.
On ne sait pas, il faut le lire pour le savoir.
Mais dis-nous un petit peu de quoi ça parle. Pareil, fais-nous le pitch.
Ouais, alors déjà, c'est un roman policier qui est assez sombre par rapport à mon premier, qui lui était quand même plus léger en termes d'histoire et même en termes de déroulement.
Donc c'est ton deuxième ?
C'est mon deuxième roman. Il retrace l'histoire de Charlotte, qui est une petite fille qui disparaît en France à l'âge de 11 ans, en même temps que sa mère. Son père est policier, c'est une étoile montante de la police parisienne, et lui va être suspecté d'être mêlé à leur disparition.
Ouais, mais toujours les proches. Hein.
Toujours. C'est les premiers qu'on incrimine en général. Et il s'avère que ses collègues ne pourront rien prouver contre lui, mais certains d'entre eux vont pas trop lâcher le morceau, sans jamais pouvoir le mettre en cause directement. Le temps passe et on commence le livre avec Charlotte, qui est adulte, qui vit en Norvège. Et on ne sait pas ce qu'elle fait là-bas. On ne sait pas ce qui lui est arrivé entre ses 11 ans et la trentaine. Et elle va disparaître à nouveau de Norvège, volontairement cette fois. Et,
ça va devenir une habitude.
Ouais. Et son père en France disparaît aussi. Et donc ses collègues vont se mettre à sa recherche, puisque c'est devenu un important policier. Quelqu'un de très influent, d'un peu trouble aussi. Et donc il a des détracteurs qui vont essayer de profiter de la situation pour lui mettre sur le dos tout ce qu'il le soupçonne d'être responsable. En le recherchant, ils vont finir par rouvrir l'affaire de la disparition de sa famille. Et donc on remonte...
Les vieux dossiers...
Oui, ils ressortent toujours.
Hantent.
Et on remonte le trajet de ce policier à rebours, en même temps qu'on va retracer le parcours de sa fille.
D'accord.
Voilà.
Ah, chouette.
Ouais.
Chouette pitch.
Ouais, c'est pas mal. Je suis assez fier de moi. Ouais.
Alors du coup, malheureusement, je suis obligée d'avouer aux auditeurs que je ne l'ai pas lu, pas encore. Je n'entends pas la même histoire que dans le
résumé.
Dans le résumé de la quatrième de couverture.
Le résumé de la quatrième, il est volontairement très vague. Parce que finalement, l'histoire tourne autour d'une histoire familiale qui est très très trouble, qui est très glauque, hein, même on peut dire.
Déjà quand on perd sa femme et sa fille et qu'on est suspecté, c'est pas...
Et puis on peut se douter forcément qu'elles vont traverser des choses qui sont pas forcément très sympas. Donc je voulais pas en livrer trop, moi, dans la quatrième de couverture. Donc ça a été un gros débat avec mon éditeur, qui lui était plutôt partisan d'en faire quasiment un résumé. Et moi je lui ai dit, il y a rien qui m'ennuie plus que de lire un livre dont je connais déjà la trame, en fait, quoi. Donc ouais. Moi, c'est un parti pris que j'ai eu. Après, ça se discute, hein, mais ça a été le mien, quoi.
Non, mais moi, j'ai bien aimé aussi le pitch de la quatrième. Mais du coup, j'ai l'impression que tu me racontes une autre histoire. Et là, du coup, je me dis, mais non, en fait, ça va s'enchevêtrer. Oui. Ouh ouais. Il y a quelque chose qui me donne encore plus envie de le lire, du
Parfait.
Coup. Joël, moi aussi, j'ai lu ta quatrième de couverture. Seulement aussi pour le moment. Mais... Ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, ton pitch que tu nous as très bien fait tout à l'heure sur Armand qui arrive dans le maquis, qui est jeune, qui n'a pas envie de se faire enrôler pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup, on s'imagine qu'on va suivre un jeune homme dans ses pérégrinations sur cette période-là. Mais quand on voit ta couverture, on voit un papy, tout fringant, hein, mais quand même un papy, avec une fameuse lettre entre les mains. Et du coup, il y a un vrai décalage entre le protagoniste dont on parle sur la quatrième de couverture et le personnage qu'on voit en première de couverture. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de spoil entre les deux ? Est-ce que du coup, ça ne nous tisse pas déjà une trame dans la tête de se dire... Est-ce que ce papy ne serait pas Armand ?
Ah, bonne question. Peut-être est-ce Armand ? Ou peut-être pas.
Okay. Tu veux garder le suspense.
Mais cette lettre, évidemment, a été retrouvée. Elle a été perdue, égarée par la poste. C'est rare, c'est très rare.
Tellement pas commun.
Et a été découverte vraiment de nos jours. Alors, est-ce vraiment Armand qui découvre cette lettre ou quelqu'un d'autre ?
Oui, ça pourrait très bien être son voilà. fils ou son petit-fils ou celui de Simone, qui sait. Très bien. Oui, en fait, ce qui est vraiment rare, c'est qu'elle ait été retrouvée.
Oui, oui, elle est ressortie toute jaunie, toute. Voilà. Avec ce fameux timbre qui sortait, qui était hors du temps pour quelqu'un de nos jours, en disant qu'est-ce que c'est que ce timbre ? J'ai jamais vu ça. Voilà.
Ah, oui, oui, oui. Ah, j'imagine l'objet, un objet précieux.
Voilà, la personne, je ne vais pas dire si c'est un homme ou une femme qui l'a eu dans les mains en premier, a été très interpellée en se disant une écriture à l'ancienne avec des liés, etc.
À la plume, sans doute, j'imagine.
Oui, et donc une enveloppe jaunie, etc. Donc qu'est-ce que c'est que cette... Il y a, à l'époque, il y avait la flamme avec la date, et donc aussi une date qui interpelle, parce que... Pourquoi ?
En pleine Seconde Guerre mondiale, oui.
Elle arrive maintenant.
Très bien. Merci beaucoup déjà d'avoir pitché vos romans. On va y revenir tranquillement. Quel est votre... qu'est-ce qui vous a inspiré ces romans à chaque fois ? Toi, Joël, tu nous as dit que c'était un concours de nouvelles et puis c'est ton mari qui t'a lancé sur la période. Mmh. Mais en vrai, tu aurais pu écrire mille et une choses. Pourquoi une romance ? Alors, histoire d'amour, je ne sais pas si c'est une romance, mais histoire d'amour.
Oui, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour et avec un secret au milieu. Et donc, voilà, j'avais envie de... Bah, déjà, de parler aussi de la jeunesse dans les années 40, 50, etc., qui n'était pas aussi facile que maintenant, hein, où le patriarche avait son mot à dire... Mmh. Hein, et surtout pour une fille, donc voilà.
Père de Simone.
Voilà, le père de Simone qui veillait au grain, et il n'a pas trop veillé au grain parce qu'il est arrivé quelque chose. Mais et après, il s'est bien arrangé pour que Simone rentre dans le droit chemin, pour démontrer ça aussi, que voilà, on était majeur qu'à 21 ans, et que jusqu'à 21 ans, c'était les parents qui décidaient.
Oui.
Dans ce cas-là,
c'était moins souple qu'aujourd'hui, voilà, parce qu'aujourd'hui, même quand on n'a pas encore 18 ans, les jeunes, ils ont quand même une grande liberté.
Grande liberté, voilà. Hein. Voilà, je vais vous traiter de ça aussi en même temps. Voilà.
Très bien. Michael, ton premier roman, c'était déjà un polar, du coup. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette nouvelle histoire ?
C'est compliqué parce que moi, j'ai pas de. Contrairement à Joël qui avait un point de départ, moi, j'en ai pas. Je pars un peu à l'aventure.
Zéro à chaque fois.
En fait, souvent, j'ai écrit 2 livres, enfin 3, mais en tout cas dans les 3 cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une situation en tête, une scène en général. Dans le premier, c'est Claire qui se réveille, c'est le personnage principal. Elle se réveille tous les matins à la même heure depuis plusieurs semaines, et donc quelque chose la travaille, mais on ne sait pas quoi. Et ça part juste de ça, et c'est devenu un roman policier, pas par hasard, parce que je pense que ce sont mes familiarités avec le genre qui ont travaillé, mais il n'avait pas vocation à être un roman policier, ni même à être un roman en fait au départ. C'était, c'était quelque chose que j'écrivais comme ça, j'avais cette
pour
idée.
Pour le plaisir.
Tête, voilà. Et celui-ci, c'est un peu pareil. En fait, la scène d'ouverture, où Charlotte est dans sa cuisine en Norvège, j'avais cette idée-là, avec vue sur le fjord, pour que ce soit joli, tout ça. Et je ne savais pas du tout ce qu'allait lui arriver, mais comme à chaque fois, je me suis dit, si tu as cette scène en tête, il faut que tu en fasses quelque chose. Et donc ensuite, les éléments arrivent...
En allant.
Ouais, en allant, et ouvre à chaque fois des champs de possibilités, et on ferme certaines directions, et on emprunte d'autres, et au fur et à mesure, l'histoire se construit. Mais en réalité, souvent, les auteurs de romans policiers vont dire que le polar, c'est un genre de prétexte pour traiter de questions de société, de questions de politique, questions de... moi, je suis toujours très embêté quand on me pose la question, parce qu'il s'avère que souvent, il y a quand même des éléments sociétaux qui sont abordés, mais là, je dirais que c'est l'inverse, c'est le roman permet ça, mais c'est pas un prétexte, parce que j'ai pas d'idée au départ de ce que je vais écrire en fait.
Oui, t'as pas une thématique que t'as envie de traiter.
Ni thématique, ni plan, ni personnage, ni...
T'as une scène, et tu pars de cette scène. Ok. J'entends, alors moi, comme je fais pas mal d'ateliers d'écriture à droite et à gauche, j'explique à mes participants qu'il y a différents types d'auteurs. Alors l'idée, c'est pas de se mettre dans une case, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre comment on fonctionne quand on écrit, comment chacun fonctionne, et puis de trouver sa propre manière d'être décomplexé par rapport à ça. Du coup, Michael, j'entends que t'es plutôt j'appelle ça auteur-explorateur. Alors, pour moi, les trois types, il y a l'auteur architecte, celui qui va vraiment faire un plan à l'avance. Et en fait, tout dépend de la manière dont on fonctionne. Et en fait, de comment on gère sa créativité. Les architectes, leur créativité, elle va arriver vraiment au début de la conception de l'univers, de l'intrigue, des personnages. Et du coup, ils vont vraiment tout planifier. Et c'est là que leur créativité s'exprime le mieux. Quand ils vont écrire, ça va être chouette. Mais la phase de créativité, elle est en amont. Les auteurs explorateurs, ils sont plutôt au fil de l'eau. Ils ont un fil rouge où ils ont un début. Et puis c'est en écrivant que la créativité prend tout son sens et que du coup le roman vraiment prend corps. Et donc cette phase de créativité, elle se situe vraiment au moment de l'écriture. Et puis il y a ce que j'appelle les auteurs bricoleurs, ceux qui vont avoir une idée, qui vont faire un bribe de plan peut-être, mais qui vont écrire un premier jet assez vite parce que en vrai, ils aiment écrire, mais c'est pas ce qui les intéresse le mieux. Ce qui les intéresse le plus, c'est à la fin de revoir leur texte et de bricoler leur texte pour en faire vraiment ce qu'ils avaient en tête au début, mais sur la base d'un premier jet déjà bien construit. J'ai l'impression, Michael, que tu fais plus partie des auteurs explorateurs, du coup.
Ouais, alors j'ai quand même le petit côté bricoleur en plus, hein. J'aime bien ces catégories-là. Disons que j'ai des idées d'intrigue, hein. J'en ai plein.
T'as ton fil rouge, quoi.
Non, mais même en général, j'ai 3-4 intrigues qui traînent dans le fond de mon crâne. Et puis,
ça promet de nouveaux romans.
Bah non, justement, parce que souvent, je pars avec une scène, j'ai des idées par ailleurs, et je me dis, bah tiens, je pourrais en faire quelque chose. Et il s'avère que ça marche jamais, quoi. Enfin, moi, quand je commence à faire ce que tu dis, faire
un plan,
un genre de résumé de l'intrigue et tout ça, au bout de 3 chapitres, ça rentre plus, parce que de toute façon, je suis parti dans une autre direction inconsciemment, et toutes ces idées-là, je les garde de côté, et souvent, ça devient des nouvelles.
D'accord.
Parce que là, pour le coup, la nouvelle, il faut quand même avoir une... Je trouve qu'il faut quand même plus avoir une idée du déroulé de l'histoire, parce que c'est très court.
C'est trop. Donc être incisif, quoi.
On peut pas se permettre de partir à droite, à gauche, faire demi-tour.
Non, pas le temps.
Alors qu'avec un roman, on peut largement se le permettre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est un peu gros, celui-là.
J'ai combien fait de pages? Alors, format 600,
poche 626.
600, plus de 600 pages, ouais. Format poche. Voilà, un bon petit pavé, mais en vrai...
Ça se lit bien, en vrai.
C'est ce que j'allais dire, ça a l'air de bien donner envie. Celui de Joël, en
120 pages
est plus court. Joël, du coup, tu fonctionnes plutôt comment, toi ?
Architecte et bricoleur.
Ok, donc tu fais ton plan.
Alors moi, je fais mon plan, etc. Après, bah, c'est évolue.
Oui, voilà, ça.
Souvent, voilà.
Ça reste ajusté.
Et puis, à la fin, donc j'ai... Mon lecteur numéro un qui...
Ce fameux Joël.
Ce fameux Joël.
Qui est dans le studio
qui est dans l'ombre.
Coucou,
et qui me dit, bah, moi, je ne suis pas trop d'accord. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Et puis, bah, souvent, je lui dis, bah, je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis...
Il y a un petit débat qui se fait.
Et puis, voilà. Puis, bah, il faut le temps que ça mûrisse, que ça mûrisse. Puis, je me dis...
Il a raison.
Quelquefois, je dis, pas toujours. Je me dis, ah, il a peut-être raison en définitive.
Moi, elle a toujours raison.
Voilà. C'était le cas pour Albert dans Apocalypse 14-18, où il m'avait dit, voilà, tu devrais l'écrire à la première personne. J'ai dit, ah, non, un livre, ça ne s'écrit jamais à la première personne. Donc j'ai écrit, voilà.
Pourquoi pas ?
Et puis, bah, tout à la fin, j'ai tout démonté pour remettre.
Et t'as bricolé.
Et j'ai bricolé. Voilà. Donc je suis architecte et bricoleur.
Ça marche. Tu pars avec ton plan et puis quand
puis
Joël
fois, voilà.
met son grain de sel, tu bricoles.
Des fois, il a de bonnes idées, quelquefois.
Bah, heureusement. C'est important d'avoir un premier bêta lecteur sur qui s'appuyer dans notre entourage. C'est ta femme, du coup, Michael ?
Ouais, moi, j'ai
entendu. Elle a toujours raison, c'est pour ça.
Parce qu'elle me fait souvent des commentaires et la réaction de Joël me fait beaucoup rire, parce que j'ai eu je m'imaginais moi-même, on est là. Non, mais ce que j'ai écrit, c'est très bien, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Et que quand ça décante, effectivement, on se dit, ouais, elle a peut-être pas tort.
Finalement.
Il faut le temps, quand même.
C'est ça. Bah, parce que aussi, on est. C'est ce que je lui explique parfois, parce que. Il y a d'autres personnes parfois qui me font les mêmes commentaires qu'elle a pu faire et où j'en tiens plus volontiers compte. Et je lui dis, c'est pas parce que je trouve que ta parole, elle est pas pertinente. C'est simplement qu'il y a la proximité d'abord, affective.
Et oui.
Il y a aussi le fait que quand elle me fait ses commentaires, souvent c'est quelque chose que je viens de terminer. Et donc, on est encore, nous, dans le...
Dans ta bulle.
On est content de ce qu'on a écrit, quoi. Donc, quand on vient...
C'est mieux.
Bah, ça, non. On se dit, bah, attends. Donc, y a, voilà, c'est plus voilà, une réaction un peu puérile, en fait.
Carrément.
Faut bien reconnaître. Mais non, moi, elle le lit en allant.
D'accord, en alpha lecture.
Ouais, en
chapitre après chapitre.
Bah, ou morceau après morceau, ça dépend. Et j'ai 5 ou 6 personnes qui font ça. Donc pour principalement okay.
Toujours les mêmes personnes, plus ou moins.
Ouais, plus ou moins les mêmes, ouais.
Okay.
Et ça c'est pour le côté plus langue. Parce que quand on écrit, on a beau se relire, on sait ce qu'on a écrit et des fois il y a plein de choses qui passent à travers.
Il manque des mots, on les voit même pas qui les manquent.
Il y a des lettres qui sont écrites en 3 fois alors qu'il en faut qu'une, enfin des ce genre de choses quoi. Donc eux donnent aussi des avis sur la suite ou sur la cohérence de ce qu'il y avait avec ce qu'il y avait avant aussi. Donc ça permet aussi d'ajuster la construction du livre, puisque moi j'ai pas de plan du tout. Et ensuite j'ai des bêta lecteurs qui le lisent une fois qu'il est terminé. Donc là j'en ai eu 4.
Tu bricoles derrière du coup ?
Énormément.
Okay.
Énormément. Donc là, j'en ai eu 4 qui m'ont fait des retours de lecture avec des remarques pertinentes, des remarques que m'avait déjà faites ma femme.
Elle a donc toujours raison.
Elle a toujours raison. Et donc j'ai retravaillé, j'ai quasiment terminé de retravailler le 3e. Là.
D'accord.
Donc, il est quasiment prêt.
Qui s'appellera ?
Il n'a pas de nom encore. Le titre, en général...
Il y a un titre provisoire, même pas.
Ouais, Trinité, mais ça sera certainement pas ça. Après, c'est discussion avec les éditeurs. Hein.
En tout cas, prochain roman de Michael Moutonnet, On the Road, quoi.
Ouais, l'année prochaine, en principe.
D'accord, super. Oui, donc finalement, t'es peut-être plus bricoleur que t'écris ton premier jet comme ça en allant, puis après
ouais.
tu...
Et donc,
tu...
Ouais, c'est pour ça que je te dis, il y a les deux, quoi.
Ouais.
Après, je...
C'est intéressant.
Ouais, je construis l'édifice et ensuite, je le retravaille. Enfin, comme un maçon, quoi. Le gros œuf d'abord et ensuite, on fait les finitions, quoi.
Mmh. Ouais, non, moi, je suis plutôt... moi, je suis exploratrice. J'ai un vrai fil rouge. Souvent, j'ai un début. J'ai même souvent la fin. Mmh. Le milieu, je ne suis pas toujours sûre, mais ça va vraiment en allant comment mes personnages ils vont évoluer d'eux-mêmes. Par contre, le plan que les architectes font, je le fais, mais en allant.
Oui, moi aussi.
Comme ça, j'ai vraiment...
Parce que ça permet de revenir en arrière ouais. plus facilement que de se recogner toute la lecture. Quoi.
C'est ça, de garder la cohérence et tout ça. Et par contre, alors bricoler, c'est vraiment quelque chose que je déteste faire.
Ce n'est pas ce que je préfère.
Moi, donc le moins possible.
Là, il m'a fallu 3 mois pour me motiver, depuis le dernier retour de lecture, pour m'y mettre vraiment. Et c'est, encore une fois, c'est ma femme qui m'a dit « Allez, on s'y met, on fait ça le soir, on le relit à voix haute, on corrige tout ce qu'il y a à faire, tu rajoutes les trucs, tu retires ce qui sert à rien. » Et moi, c'est un travail que j'aime pas, en fait. Alors, je le fais parce que ça sert l'histoire, et
bah
puis
oui.
c'est dans l'intérêt du lecteur. Mais moi, c'est vraiment pas le côté que je préfère, quoi. Même si je le fais beaucoup.
D'accord. Non, mais moi, j'essaie d'éviter. Mais bon, c'est pas toujours possible. Hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez peu. Par contre, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'au fil de l'écriture, ça garde la pertinence, la cohérence, de vraiment poser la question sur chaque chapitre. Est-ce que ça sert l'intrigue ? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour le lecteur ? Qu'est-ce que je leur fais apprendre de nouveau qui va les mener vers la fin ? Enfin, voilà. Mais c'est marrant. Enfin, c'est intéressant, je trouve, les façons de fonctionner de chacun.
Mais je pense qu'il n'y a pas deux auteurs qui fonctionnent de la même manière.
Absolument, absolument. Et c'est aussi ce que j'essaye de dire aux participants de mes ateliers, c'est de trouver leur voix, en fait.
Ah, c'est le premier écueil quand on se met à écrire. C'est, moi, je me rappelle, la première fois où je me suis dit j'écrirais bien un livre, ça fait longtemps, où on se pose la question de... Mais alors, question bête, hein, quel logiciel de traitement de texte utilisent les écrivains ? En fait, on s'en fout, tout le monde écrit sous Word ou équivalent.
Oui, ou sur rares une plateforme.
Sont les, voilà, rares sont les auteurs qui ont un logiciel de traitement de texte professionnel, entre guillemets, enfin d'éditeur, en fait. Il y en a certains qui écrivent encore dans des cahiers. Enfin, chacun peut s'y mettre, en fait, quoi.
Ah oui, oui, absolument.
Il n'y a pas de règle.
Il faut se décomplexer par rapport à ça. On sait tous écrire et devenir auteur, ça s'apprend aussi. Enfin, il y a des techniques. Après, voilà, le style, ça reste quand même assez personnel. On peut s'améliorer en apprenant des petites choses. Après, voilà. Mais oui, bien sûr, heureusement. C'est pas juste du talent, on n'est pas touché par la grâce. Hein.
Non.
On n'est pas là. Hein. On aimerait bien, des fois, mais... Vous êtes tous les deux édités en maison. Je voudrais qu'on revienne là-dessus après une courte pause. Joël, toi tu es chez Quetken Édition et Michael, tu es chez Hervé Édition.
Mais mon premier était chez Quetken, c'est comme ça que j'ai rencontré Joël.
Oh, c'est trop mignon. Voilà.
Sans savoir que nous étions du même département. Notre éditeur a dit, oh, bah, je n'ai même pas remarqué que vous étiez du même département.
D'accord. Joëlle, du coup, La lettre égarée, c'est ton premier roman ou c'est pas ton premier? Non, tu parlais d'un autre tout à l'heure.
Non, j'ai commencé par un témoignage.
D'accord.
Donc, 2015, c'est un témoignage sur Alzheimer, puisque papa a eu Alzheimer.
D'accord.
Et donc, j'écris « J'ai la mémoire qui flanche », parce que papa chantait toujours cette chanson. Voilà. Et donc, le titre n'est pas vraiment évident, d'une évidence. Voilà. Et donc, je présente papa avant sa maladie, pendant sa maladie, et moi, en tant qu'aidante à temps partiel, j'ai toujours, parce qu'au décès de maman, moi, j'étais à 180 km de chez papa, et il ne pouvait plus rester du tout à la maison. Maman envisageait déjà elle avait un cancer généralisé, et la pauvre, à la fin, elle avait un peu de mal à gérer tout ça.
J'imagine, oui.
Elle avait pensé aussi devoir le placer, j'aime pas ce terme. Mais voilà. Et donc, au décès de maman, dans l'urgence, il a fallu prendre des dispositions, et donc je raconte un peu tout ce parcours du combattant, des aidants. Dans
ce chamboulement aussi de vie, etc. Et puis c'est pas facile d'aider un proche. Voilà.
Et l'aidant aussi face à la maladie et face à son malade.
Et puis l'Alzheimer, c'est une maladie qui transforme aussi les gens. J'imagine qu'à des moments, tu ne l'as pas reconnu.
Je dis toujours, j'ai eu trois deuils à affronter. Le deuil de maman, le deuil blanc de papa, puisque le deuil blanc, c'est lorsque la personne change carrément, n'a plus les conversations qu'on pouvait avoir avant, la complicité, et puis le décès de papa. Donc trois deuils à affronter en peu de temps.
C'est un témoignage que tu avais déjà fait, que tu as pu faire éditer?
Oui, donc il a été édité chez Coetken.
Ok, donc du coup, tu es resté chez Coetken depuis Coetken, sur tous tes écrits.
Non, pas deux livres qui sont en auto-édition parce que Albert, dont j'ai parlé tout à l'heure, a beaucoup d'illustrations, beaucoup de cartes postales en couleur. Et donc, à chaque fois, c'était le même refrain. Vous enlevez les cartes postales, les cartes couleurs, et je vous l'édite parce qu'ils coûtent trop cher à éditer. Et j'ai dit, non, ça, c'est ma trame dans mon livre.
C'est ton cœur de récit.
Et donc, du coup, on est allé voir un imprimeur, on l'a fait en auto-édition.
Ok, donc deux chez Coetken et deux en auto.
Trois chez Coetken. Quatre.
Toujours plus.
Attends. Oui, j'ai la mémoire.
Joëlle Carbonnier, Ouda, je fais la une à chaque fois.
Je commence à avoir la mémoire qui flanche. Donc j'ai la mémoire qui flanche, mais non, tout va bien. Vers un autre destin, il a l'être égaré.
Très bien. Donc 4 chez Coetken et 2 en auto. Michael, du coup, tu nous as dit que c'était ton deuxième, le premier chez Coetken.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a fait trouver cette nouvelle maison? Pourquoi tu as eu envie de changer aussi?
Pourquoi j'ai eu envie de changer? Il n'y avait pas de raison particulière, en fait.
D'accord.
J'étais plutôt content du travail que fait Yannick, qui m'a offert la chance d'être édité par une vraie maison. Pas une maison à compte d'auteur, mais bien un compte d'éditeur. C'est une grosse différence pour les gens qui voudraient se lancer dans l'aventure. Faites bien attention à ça.
Oui, une maison à compte d'auteur n'est pas une maison d'édition.
Et pour autant, elle en a le statut légal, ce qui est très curieux. J'ai en fait, comme la première fois, j'ai envoyé le manuscrit à différentes maisons.
D'accord.
Et puis j'ai attendu de
voir. Les collections pouvaient s'adapter à.
Ouais, dont les lignes éditoriales pouvaient intégrer le bouquin, quoi. Et Coetken a été le premier à répondre pour mon premier livre. Et j'avoue qu'à l'époque, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, allons-y, parce que je n'avais pas prévu de le faire éditer. Encore une fois, c'est ma femme qui a poussé. Donc
tu étais content d'avoir une réponse positive. Tu t'es dit, allez, c'est une nouvelle aventure.
Au téléphone, Yannick est super agréable.
Et puis,
franchement, j'ai strictement rien à lui reprocher. Et j'ai fait la même chose pour le deuxième. En fait, je l'ai envoyé à droite et à gauche.
Okay.
Et il se trouve que la maison que j'ai choisie, elle est plus implantée dans le nord de la France. Yannick est en Bretagne. Donc le tissu
tout
local,
le nom.
Voilà. Le tissu local, c'est notre tissu local, en fait, c'est pas le sien. Les réseaux ici sont pas les mêmes que lui a l'habitude de maîtriser. Et je me suis dit que moi, étant des Hauts-de-France, c'était quand même peut-être plus pertinent et plus pratique et plus
pertinent, ouais.
De choisir une maison plus implantée ici, quoi.
Ok.
C'est comme ça que j'ai changé, en fait.
Okay. Oui, sinon tu l'aurais volontiers refait chez Coetken.
Ah oui, voilà. Absolument. D'ailleurs, il a lu. Le manuscrit de celui-ci, il l'a lu. Et il a lu aussi le manuscrit du prochain.
D'accord.
Je les lui envoie à chaque fois.
Un bon boulot, Yannick. Il est sympa. Hein, parce qu'un éditeur qui lit et qui n'est pas sûr d'avoir l'édition au final.
C'est pour aussi
mal,
avoir son avis. Quoi, parce que,
bah oui, c'est important.
Comme je te dis, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Quoi. C'est aussi une forme de reconnaissance. Et puis, c'est pas dit qu'un jour, on ne travaillera pas ensemble.
Et chez Hervé, du coup, t'es content ?
Ouais, je suis content. Mais là, encore une fois, pour le troisième, ça part à droite, à gauche. On verra
d'accord.
bien. Ouais.
Il n'y a pas d'exclusivité.
Non. De toute façon, les contrats qu'on nous propose n'en présentent pas. Hein.
Non, mais bon, quand ça se passe bien, en général, c'est, surtout sur des maisons qui ne sont pas énormes, tu reproposes un livre, il n'y a pas de raison qu'ils ne te l'éditent pas si
oui.
la relation s'est
après,
bien passée, que le roman s'est vendu correctement.
Moi, je vis ça un peu comme... Je fais de la musique depuis que je suis au lycée. D'ailleurs, c'est sympa de revenir ici, parce que mes premières interviews radio, je les ai faites dans ce studio.
À Graphite.
À Graphite. Et je vis ça un peu de la même manière, c'est-à-dire que la vie de groupe, c'est croiser des groupes, des organisations, des lieux, des pays parfois, et de faire des choses qu'on ferait jamais dans la vie ordinaire, enfin dans la vie civile. J'aborde ça un peu de la même manière, c'est-à-dire que j'aime bien l'idée de naviguer d'un éditeur à l'autre, dans le sens où ça permet aussi de voir d'autres façons de travailler, rencontrer
absolument.
D'autres personnes. Et puis, c'est pas du tout le signe qu'on n'est pas content du précédent éditeur. Ça peut arriver. Hein. Mais
oui, oui,
dans mon cas,
c'est
pas du tout le cas.
Mais
c'est plus travailler avec d'autres personnes, en fait, quoi.
Oui, voir comment ça se passe ailleurs,
Alors que moi, je me présente systématiquement
à Yannick.
Qui est très réactif. Hein.
Ouais.
Dans les 15 jours, en principe, on a une réponse, ce qui est très rare
mais oui.
pour les maisons d'édition. Hein. C'est vraiment très, très
et
rare.
Il les a lus.
Oui, oui, oui. Ah oui, parce que il me parle de choses qui sont
déjà
les a lus,
livre, la fin du livre, etc. Et donc du coup, je continue parce qu'en plus je l'aime bien. Mon mari dirait c'est Yannick. Pour moi, je m'en vais parce qu'il y a pour un petit bout de temps. On s'entend très très bien. Il est il est proche de nous. Hein,
et puis oui, bon, ça reste familial comme façon de travailler proche. C'est chouette. Hein. C'est chouette. Moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir mon premier roman qui était édité dans une maison et chez Nanashi, qui est une maison en Vendée. Et pareil, ça s'est très bien passé. Jérôme, l'éditeur, est très avenant. Il dit jamais non. Il essaie toujours de trouver des solutions pour plein de choses. Et c'est super agréable de travailler avec des gens comme ça. Et pour autant, je suis aussi allée voir ailleurs. Et puis, il ne m'a pas fait la gueule, quoi.
Non, là, c'est l'idée, en fait. Moi, j'en ai parlé avec lui avant de... Enfin, en fait, je ne l'ai pas fait dans son dos. C'est-à-dire qu'on en a parlé. Et il m'a dit, mais je comprends tout à fait. Et il m'a dit, en plus, ce sera certainement plus facile pour vous de vous implanter dans
ta région.
Bah oui, que par mon intermédiaire. Ceci dit, on travaille toujours ensemble, puisqu'il est toujours éditeur de mon premier livre. Et,
oui, il est toujours édité, ton premier livre.
Ah oui, et puis je le trimballe sur les salons. Quand ce sont des libraires qui acheminent les bouquins, ils font des commandes chez lui. Donc ça permet aussi de continuer à faire. Il y a aussi cette dimension-là, je me dis, quand on change de boutique, quand on sort un nouveau livre, ça fait toujours revendre les précédents. Et je me dis, ça fait tourner aussi les maisons qui nous ont donné une chance à un moment. Et voilà, il y a des auteurs qui partent avec tout leur... Ils récupèrent leurs droits, ils mettent tout chez le même éditeur. Et moi, je me dis que je vois pas pourquoi je ferais ça, en fait. Parce que ça permet aussi de faire bouger, enfin de faire vivre, de continuer à faire vivre des éditeurs, des structures qui sont toutes petites et qui, à un moment quand même, nous ont fait confiance.
Oui, ça c'est chouette. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, j'étais très contente pour mon premier roman d'être en maison d'édition. Depuis, j'ai fait mon prochain roman est sorti hier officiellement. On a fait l'édition, l'événement de lancement. Il est en auto-édition et c'est mon deuxième vrai roman que j'ai fait en auto-édition. Pour autant, j'ai eu Nanashi Édition, j'en ai eu d'autres aussi sur mon parcours, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
Les éditeurs. Que c'est pas parce qu'on s'en va que...
Mais en fait, c'est vraiment des expériences différentes et c'est chouette aussi d'apprendre à faire d'autres choses, de travailler autrement et de voir autre chose. Mais l'implantation, c'est vrai que c'est une vraie question.
Oui.
Toi, du coup, t'écris que du polar.
Ouais.
Moi, c'est très varié. Très varié.
C'est varié, mais on est sur du roman réaliste.
Oui,
roman
oui,
ou témoignage,
oui,
mais oui. On est toujours dans réaliste, même si c'est
l'échoppe de la vie.
Imaginaire ou pas, mais on est sur du réaliste. Moi, j'écris j'écris toujours du roman, que ce soit 100% réel, parce que j'écris des choses qui sont vraiment passées, ma trame, c'est toujours d'écrire du roman, ou alors j'écris de l'imaginaire, et du coup, rien à voir, mais quand t'écris de la fantasy, de la biographie, des contes pour enfants, c'est compliqué de trouver un public et de s'ancrer dans un territoire aussi. Mais c'est aussi ça qui fait le bonheur aussi de notre passion ouais. Commune, c'est de pouvoir écrire des choses, des tas de choses différentes, de rencontrer des tas de gens, comme tu disais, pour la musique. C'est très enrichissant.
Après, il y a énormément d'auteurs qui ont plusieurs éditeurs. notamment les auteurs qui, pour ce qui me concerne, je connais surtout des auteurs de polar. Ceux qui écrivent du polar adulte ont des maisons d'édition dédiées. Parfois, ils écrivent aussi d'autres types de textes qui sont édités chez d'autres éditeurs. Ils font de la jeunesse chez des éditeurs jeunesse. Rien n'empêche après d'aller d'avoir plusieurs boutiques.
Bah non, pas du tout. Puis moi, j'ai vu des façons de travailler complètement différentes d'un éditeur à l'autre.
Ah oui, absolument.
Et puis même d'un roman auto-édité à l'autre, j'ai aussi, moi, appris à travailler d'une manière différente, à organiser mon lancement d'une manière différente. Enfin, on apprend.
Et puis, tu vas écrire un livre, il va être dans la bibliothèque par exemple, de Coetken, pour ne pas le nommer. Et par contre, le second livre ne rentrera pas dans sa bibliothèque. Donc, voilà.
Oui, selon la ligne
éditoriale. Il va dire, bah non, c'est pas du tout ma ligne, voilà, aller voir ailleurs, parce que moi, je ne fais pas ce genre de...
Absolument, absolument. Moi, le livre que j'ai écrit après l'Oneida, qui est ma trilogie de fantasy, c'était des contes pour enfants. Bah, clairement, mon éditeur m'a dit, moi, je n'édite pas de contes pour enfants. Je fais du jeunesse, mais c'est manga.
Ouais.
Donc, je vais pas pouvoir t'aider, quoi. Donc, je suis allée voir ailleurs pour ça. J'ai appris de mes erreurs, mais c'était. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Là, je vais. Au mois de novembre, je devrais éditer un nouveau livre de fantasy post-apocalyptique. Je l'ai proposé à Nanashi, et puis en même temps, j'ai quand même cherché une autre maison en me disant, voilà, j'aimerais bien aussi voir comment une autre maison fonctionne sur cette thématique-là. Ouais. Et puis Jérôme était tout à fait OK avec ça, et c'est chouette de pouvoir être contents les uns pour les autres sans qu'il y ait de...
Oui, c'est ça, d'animosité. Ouais. Ou de... Après, moi, ce que je dis toujours, ça reste du commerce, mais c'est de la culture. Et heureusement que les acteurs culturels, en sens général du terme, sont pour la plupart relativement ouverts et ne sont pas dans une logique de concurrence à tout prix, quoi.
Oui, j'ai eu la chance quand même de travailler dans un milieu assez bienveillant.
Ouais, ben moi c'est pareil, franchement, je peux pas dire quoi.
Et c'est aussi l'avantage des petites structures. Alors oui, souvent il faut faire des salons soi-même, il faut faire aussi beaucoup de communication soi-même, voilà, parce que les petites structures n'ont pas les moyens qu'ont les grosses, mais en même temps on apprend beaucoup de choses et puis on rencontre beaucoup de gens et ça permet Ça y est, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire tout à l'heure. Le fait d'être édité pour un premier roman en maison, ça m'a vraiment fait du bien pour la reconnaissance de mon travail. J'aurais jamais auto-édité mon premier roman.
Moi, c'est pour ça que j'en ai écrit un deuxième.
Je ne l'aurais pas édité du tout si je n'avais pas trouvé de maison. Donc, je ne serais sûrement pas autrice aujourd'hui si je n'avais pas eu Jérôme. Enfin, autrice. On peut se considérer auteur, même si on n'est pas publié. Mais moi, je pense que je ne me serais jamais considérée comme autrice si je n'avais pas publié une première fois en maison et avoir l'aval de professionnel du milieu.
Je n'aurais même pas écrit le deuxième parce que, mine de rien, sur une vie de famille, ça prend vachement de temps, quoi. Je ne te parle pas des salons, je te parle juste de l'écriture.
Je comprends.
Moi, j'ai encore des enfants jeunes, ça sous-entend quand même d'organiser la vie familiale de manière à dégager du temps pour le faire. Ça veut dire que c'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose avec eux. Quoi.
Ouais. Moi, c'est différent, je suis retraitée, donc voilà.
Mais les retraités, ils ont des agendas encore plus overbookés que quand on travaille. C'est tombé.
C'est très compliqué à trouver des dates aussi les week-ends pour recevoir les enfants.
trop de fame.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je n'aurais pas pensé à vous demander, que vous avez envie de nous dire sur votre vie d'auteur ou sur vos romans respectifs ?
Moi, je vais en profiter pour remercier Joël parce que, en fait, c'est Joël qui m'a invité à mon premier salon. Quand elle a découvert que j'étais pas loin, elle m'a invité. Le premier salon que j'ai fait, c'était à Hermes.
À Hermes.
Salon qu'elle organisait. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mis à faire des salons parce que j'avais aucune idée que ça existait, en fait. C'est elle qui m'a mis le pied dedans.
Ah, je suis très heureuse. Je savais pas que c'était ton premier salon.
C'était mon premier. Oui.
Et tu es venue avec des béquilles.
Eh oui, je venais de me casser le tendon d'Achille et voilà. Effectivement, j'étais encore plâtré d'ailleurs, je crois.
Et lorsque j'ai dit à Yannick, j'ai dit j'ai envie d'inviter Michael. Est-ce que vous avez ses coordonnées? Oui, je vais vous les transmettre avec plaisir. Et Michael a tout de suite répondu.
Ah bah oui, c'était chouette. Hein.
Immédiatement, ce sera avec plaisir que je serai à ton salon. Enfin, on vous voyait peut-être à l'époque, je sais plus. Voilà.
Ah oh, bah super, ouais. Cool, sympa.
Là, tu as fait trois.
Deux salons. J'en ai fait deux.
Deux salons.
Et puis moi, en vous invitant, je ne savais même pas que vous
connaissiez.
Connaissiez, si, parce qu'on est auteurs locaux, connaît plus ou moins tout,
au travers des salons.
Mais je ne savais pas que vous aviez un petit passif, voilà, avec Quetken notamment. Ouais. Et puis cette petite anecdote, j'adore, c'est mignon. Eh bien, je vais vous proposer un petit jeu. Le jeu, on va appeler ça du mot juste. Alors, on l'a fait la dernière fois avec, dans l'émission précédente avec les deux autrices qui étaient là. Donc c'est un jeu qui est issu d'un vrai jeu de société qui s'appelle Maudit Maudit. Je le cite parce que si les gens ça les intéresse, c'est toujours sympa de pouvoir le retrouver. L'idée c'est que ça marche par association d'idées. Donc je vais vous donner un mot. Vous allez m'en redonner un en échange qui vous passe par la tête, qui vous correspondrait à ce que je viens de vous dire. Si vous trouvez le mot juste, bah du coup vous gagnez. Sachant que moi, vous ne le savez pas, mais moi je dois vous le faire deviner en X indices. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 5. Donc du coup, vous ne savez pas. Donc vous allez me dire ce qui vous passe par la tête. Et c'est à moi de vous amener le cheminement pour que vous trouviez le mot juste au bon moment. Si j'arrive à faire ça, moi aussi je gagne en même temps que vous. Mais si vous le devinez avant, c'est vous qui gagnez. Juste vous.
Qu'est-ce qu'on gagne?
Le droit de revenir, Joël. Alors, je vais commencer en vous disant mammifère.
Dauphin.
Éléphant.
Marin.
Loup de mer.
Otari.
Leila.
Springsteen.
Pas d'idée. Non, alors, c'était marrant parce que je me suis dit, je vais dire ça et je vais, pour le troisième indice, je vais dire ça et je vais voir si vous avez la ref. Et pas du tout. Donc, du coup, je vais vous donner un autre troisième indice qui serait Moby Dick.
Baleine.
Baleine.
Voilà. Parce que Layla et la baleine, c'était un spectacle de marionnettes que j'avais vu quand j'étais en maternelle. Et ça, c'était.
Chardon bleu.
Oui, absolument. Tu vois, ça te parle, en fait. Je me suis dit, peut-être, il va capter, parce qu'on est de la même génération, ouais, à peu près. Et puis, j'avais eu le livre qui va avec, et du coup, c'est un livre que j'aimais beaucoup. Je trouvais que c'était une histoire très mignonne. Mais voilà, si t'es pas de la même génération de cette...
Non, ouais, pas du tout.
qui aurait vu ce spectacle à l'école il y a très longtemps, bah, tu peux pas trop capter la ref. Mais par contre, Moby Dick, voilà, on est sur une référence plus vaste, plus connue. Donc tout de suite, vous avez trouvé baleine. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire passer comme message aux auditeurs, c'est que quand on écrit un livre, on doit toujours trouver le mot juste pour leur faire deviner des choses ou pour les amener. On va pas dire fermer violemment une porte, on va dire claquer une porte. Et c'est, voilà, trouver le mot juste, c'est important. Et aussi, s'adresser à son public de la bonne manière et avoir les bonnes références pour son public, c'est important aussi. Donc effectivement, si je cible des gens de plus de 40 ans, je ne parle pas de Layla, puisqu'ils ne vont pas connaître Layla et la baleine. Allez, on s'en fait un autre, parce que là, du coup, vous avez tous les deux trouvé. Hein. Si je vous dis maison.
Château.
Foyer.
Pièce.
Cuisine.
Salle à manger.
Sombre.
Cave.
Bah oui, cave. Okay. J'ai le droit de dire pareil.
Oh, oui, de toute façon, c'est pas le bon mot, du coup, sinon je vous le dis. quatrième indice, circuler.
Couloir.
Allez.
C'était couloir. Sauf que je devais vous le faire deviner en 5.
Oui, mais trop vite. Ça paraissait logique. Alors je dis que je vais retrouver autre chose.
Bon, ok. J'aimerais bien gagner quand même. Fromage.
Emmental.
Suisse.
Gruyère.
Gruyère.
Oh, vous m'énervez. J'avais encore un dernier indice à vous donner qui
c'était
était
facile,
trou.
C'est facile, ça. Facile.
Ça aurait pu être raclette, non?
Non, Savoie.
Ah, mais si, il y a un fromage qu'on met dans... Non, c'est pas celui-là. On met dans la fondue qui est suisse.
Bon, le seul fromage que les Suisses, que les Français connaissent vraiment, c'est le gruyère.
Damn it. Bon, je continue. Je ne suis pas très douée, il se trouve, finalement.
Ou Mickaël est très doué, alors.
C'est les invités qui vont me faire deviner. Attention, auteur.
Franck Tillet.
N'importe quel auteur, alors.
Je vous donne le mot qui... D'accord. Est auteur. Qu'est-ce que...
Lévy.
Ok, Non, alors, non, l'idée, c'est pas de trouver des personnes.
Ah, d'accord.
Ah, écrire.
Presque. Joël. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Réfléchir.
Écrivain. C'était.
T'as gagné.
T'as pas gagné. Bah non, j'ai pas gagné non plus parce que t'as pas vraiment deviné. T'étais presque.
Ah, il fallait que je trouve pour que tu gagnes au bon moment.
Ouais. Ah d'accord.
Ouais, il faut que vous trouviez. Ouais. Bah si j'arrive pas à vous faire deviner, je suis nulle aussi, quoi, on va dire. Donc j'arrive à vous faire deviner, mais pas exactement dans le
tempo que tu aimerais.
Ah, c'est ça. Bon, allez, dernier essai. Je compte sur vous. Hein. direction.
Sud.
Nord.
Est.
Ouest.
Ouest.
Ça marche pas. allez, je vous en donne. Gauche.
Droite. Droite. C'est bon ça.
C'est bon, mais c'était en deux normalement. Damn it, j'aurais pas gagné un seul coup aujourd'hui. Bah, félicitations à vous, vous m'avez bien eu. Merci à vous d'être venu dans les studios de Radio Graphite pour notre émission La Voix de la Plume. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, dans la bonne humeur. En plus, je vois vos visages souriants, ça fait très plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end, Mickaël et Joël. Je vais redonner le titre de vos livres. Donc on a Laissé le soleil s'éteindre de Mickaël Moutonnet et La lettre égarée de Joël Carbonnier-Houdard. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.